Félicitations pour cette levée qui est de 10 millions, tu n'as pas dit le montant, ouais. Mais donc il y a une grosse merci somme, beaucoup. Bravo.
Pour Cure spécifiquement, tu as tous ces learnings qui se concentrent. Je te donne des exemples. Nous, on est très focalisé sur la profitabilité unitaire et sur l'approche très data-driven de la compréhension économique de nos consos. On est très porté sur la culture dans la boîte. Du fait de la personnalisation, du fait qu'on maîtrise toute la tech et la data, du fait qu'on maîtrise toutes les... on a nos machines et qu'on fait du 100% personnalisé, du 100% made to order. En fait, pour nous, de traiter une commande allemande, italienne ou turque, c'est pareil que de traiter une commande française. D'un point de vue tech, d'un point de vue R&D, d'un point de vue opérationnel, c'est la même chose. 100% la même chose.
Bon, salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Je reçois cette fois-ci un invité de marque, j'ai Hugo de Cure. Comment tu vas ?
Super bien, merci de m'accueillir.
C'est un grand plaisir, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Versailles, puisque les gens ne le savent pas toujours, mais on n'enregistre pas directement dans Paris, pour le plus grand plaisir de tous nos invités. Tu as mis une petite heure de Uber et je te remercie d'avoir fait le trajet jusqu'à là, parce que les choses que tu es venu nous donner dans ce podcast sont très précieuses et je pense que nos auditeurs,
j'espère,
les gens qui nous verront sur YouTube seront très contents de l'entendre. Alors, on a plusieurs choses à traiter aujourd'hui. Déjà, une des raisons pour lesquelles je te reçois, c'est parce que vous avez des sujets qui sont très précis et que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup traiter avec les autres marques. Le premier truc que tu m'as dit quand je t'ai demandé ce qui était spécial chez Cure, tu m'as dit le focus sur l'exécution. Donc, c'est un sujet qu'on va pouvoir traiter dans ce podcast-là. On va aussi parler de votre européanisation, pour ne pas dire internationalisation, puisque vous faites 40% de vos ventes en dehors de France, et ensuite de vos canaux d'acquisition, de votre attitude globale. En fait, j'allais citer des trucs techniques que vous avez développés, mais c'est plutôt une attitude d'avoir tout en interne et de se refuser principalement, assez globalement, d'aller vers des solutions extérieures, plutôt les avoir spécifiées, développées en interne. Du coup, vous disiez que vous avez des trucs parfois qui, en fait, auraient pu faire l'objet d'autres startups que vous avez développées en interne. Donc, un programme assez chargé. Je vais te laisser rapidement juste te présenter et présenter Cure, ton histoire. Je te laisse y aller.
Bah écoute, merci déjà de m'accueillir. Écoute, l'histoire de Cure, on est donc deux associés à l'origine de ce beau projet, Jules Marcilassi et moi. Rapidement sur nous, on est deux Français, mais on a tous les deux un peu fait nos classes aux US. À New York plus spécifiquement. Moi, j'ai eu une première aventure entrepreneuriale, start-up, qui était une food tech, qui faisait déjà des box d'abonnement. Donc, c'était des box de gastronomie internationale. Un peu sur un modèle à la Birchbox, Blissim maintenant, en France. Derrière, le consommateur pouvait acheter les produits à l'unité qu'il découvrait dans ses box. Donc, on a scalé ça, de zéro à un peu plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça a été une super belle aventure entrepreneuriale. Boîte qu'on a fini par revendre fin 2017. Assez mal, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Il y a plein de learning associé à ça. Moi, à la suite de ça, j'avais la volonté d'entreprendre, de continuer d'entreprendre. Et puis, j'avais la volonté d'avoir un peu plus d'impact aussi dans la valeur que je crée pour le consommateur. Je viens d'une famille de médecins, d'entrepreneurs dans la santé. Et si tu veux, un peu à l'intersection de ces éléments-là, c'est comme ça que j'ai mûri l'idée de Cure avec Jules, qui est donc un copain de New York, qui lui a plutôt fait la scale-up. Lui, il a rejoint une boîte qui s'appelle Adormi, qui est une des top direct-to-consumer.
Qui vient d'être vendue à Victoria's Secret.
Absolument. Et lui, il a rejoint cette boîte-là quand elle faisait une quinzaine de millions, en tant que head of growth en charge de cette partie-là. Il a coordonné plutôt la croissance et vu la croissance jusqu'à une centaine de millions. Donc, il a eu la chance d'expérimenter une deuxième phase de scale que je n'ai pas encore eu la chance de connaître, j'espère qu'on y arrivera. Et lui aussi, du coup, avec une histoire assez similaire parce que sa propre maman est docteur en nutrition. Donc, il a baigné dans ces sujets-là depuis tout petit. Et c'est finalement assez naturellement qu'à notre retour des US fin 2018, on a acté qu'on allait lancer Cure et qu'on a vraiment commencé début 2019. Avec du coup une mission assez claire depuis nos premiers jours, c'est vraiment d'améliorer la santé et le bien-être de chacun en offrant une expérience personnalisée, la personnalisation qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait, et qui se repose sur deux grands piliers qui sont à la fois la science, je crois qu'on en reparlera, et la tech. Et avec cette vision, cette ambition d'arriver à créer cette plateforme leader en Europe, à minima, qui va accompagner le consommateur justement face à l'ensemble de ses problématiques santé et bien-être tout au long de sa vie, sur des problématiques ponctuelles, sur des problématiques cycliques, sur des problématiques pérennes, et faire en sorte que le consommateur puisse se tourner vers nous en tant que solution crédible, en tant qu'acteur crédible, pour trouver justement la réponse, la solution personnalisée. Qui va l'accompagner face à ça. Donc on a commencé avec un go-to-market assez clair dès nos débuts en 2019 qui était les compléments alimentaires personnalisés, qui est cette expérience où tu as un test en ligne avec une soixantaine de questions à la grosse qu'on a développé avec notre comité scientifique initialement et qui maintenant est nourri de plein de manières. Un algo de reco qui va recommander justement entre généralement 3 et 8 produits aux consommateurs, de manière personnalisée bien sûr. Et ça va se traduire en une expérience d'abonnement où tu vas recevoir une box chez toi qui contient 30 sachets personnalisés, à la fois le contenu et le contenant, vraiment personnalisés. Nous on a, tu vois, 51 produits à date. Donc on a de puissance 51 combinaisons, donc c'était des centaines de milliards, et on en a commercialisé, tu vois, 150 000 combinaisons uniques, donc c'est vraiment réellement personnalisé, qui va pouvoir prendre sa cure pratique avec son sachet quotidien pendant 30 jours, et suivre également l'amélioration perçue via un certain nombre de modules additionnels qu'on a rajoutés, donc une application de suivi de santé, de la téléconsultation et un certain nombre d'autres choses. Donc on a commencé avec ça, c'est ce produit-là, je pense qu'on va s'attarder pas mal dessus, mais qu'on a scalé jusqu'à aujourd'hui, là, sur ces trois premières années. Et du coup, là, on vient en effet de refaire une levée. Et l'idée, bah, c'est de continuer dans cette optique, de cette vision un peu plus large, d'appréhension un peu plus holistique, avec vraiment une fibre product très forte sur la manière d'accompagner le consommateur. Et évidemment, l'autre pan, ça va être aussi d'accélérer toujours un peu la croissance.
Bah écoute, félicitations pour cette levée qui est de 10 millions, tu n'as pas dit le montant, ouais. Mais donc y a une grosse merci somme, beaucoup. Bravo. J'ai l'impression que cette boîte, tu l'as plus montée en fait comme une start-up que comme une marque e-commerce, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu t'es dit dès le démarrage, je vais faire une D2C ou tu t'es dit, attends, j'ai appris plein de choses aux US, je vais faire une belle start-up.
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que Jules et moi, on avait vraiment on a été un peu biberonné à la manière d'entreprendre aux US, qui a, je pense, beaucoup de valeur et plein de bonnes choses et qu'on essaie de mettre en pratique. Et c'est vrai que du coup, dans la philosophie, on s'est pas dit, comme c'est le cas de plein de marques d'ailleurs, j'ai eu telle histoire avec un produit et j'ai hyper envie de le porter et je vais mettre mes compétences au profit de cette histoire. Nous, on a vécu le playbook un peu, on a appris plein de choses, on s'est planté, et l'un à l'autre. Et je pense que justement, on a un peu essayé de concentrer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a planté, dans une espèce de, un peu comme tu dis, hein, de playbook d'exécution de startup. Et tout de suite, on s'est dit, bon, bah voilà, on a mis une barre assez haute et des barres progressives, mais tout de suite, on avait cette vision assez claire. Et on continue d'apprendre au quotidien, bien sûr. On continue d'apprendre avec les consos, on continue d'apprendre avec l'équipe, on continue d'apprendre parce qu'on continue de se planter. Mais ouais, en effet, je pense que très vite, on avait cet avantage un peu qui est différent de certains entrepreneurs, où bah, c'est sûr que quand tu n'as jamais bossé et que tu lances ta première boîte, bah, tu découvres aussi un peu tout sur le tas, moi, ce qui a été globalement mon cas avant. Et je pense que c'est vrai que ça te permet d'avoir un axe d'exécution et une manière de percevoir la manière dont tu entreprends qui est assez différente.
Okay. Et en quoi est-ce que le projet Cure, tel que vous l'avez pensé au démarrage, ça répondait un peu au truc que vous avez appris aux US?
Franchement, il y a énormément de learning. Franchement, il y a énormément de learning qu'on a utilisé et qu'on continue d'utiliser. Et là, c'est assez rigolo parce qu'on a une bascule et on en parle souvent avec Jules. On a un peu une bascule où j'ai vu et j'ai expérimenté tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma boîte d'avant. Je l'ai réexpérimenté chez Cure. Et Jules l'avait pas trop vu. Et là, on rentre plutôt dans la phase que Jules a vu et que moi, j'ai pas vu. Donc, c'est assez rigolo. Et tu vois, on continue vachement de se nourrir de tout ça et on continue de se nourrir aussi. Nous, on est très friands d'advisory. Donc, tu vois, on a des advisors top, un peu, tu vois, de top entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment cool. Avec beaucoup d'humilité, tu vois, même si on avait une petite expérience aussi de notre côté, on aime bien toujours se nourrir un peu de perspectives ad hoc. Et c'est vrai que pour Cure spécifiquement, tu as tous ces learnings qui se concentrent. Je te donne des exemples. Je sais pas, nous, on est très focalisé sur, sur la profitabilité unitaire et sur l'approche très data-driven de la compréhension économique de nos consos. On est très porté sur la culture de la boîte. Tu vois, je pense que, et Jules et moi, on a eu des expériences assez enrichissantes sur les cultures de boîte. et si tu veux, je pense que par exemple pour Cure, c'est un truc qu'on a mis en place hyper tôt, sur lequel on consacre vachement de temps, on connaît la valeur que ça a. Enfin, on le fait avec beaucoup d'humilité, tu vois. Il y a plein de choses sur lesquelles on itère, et tu vois, quand on fait nos retraites d'équipe. On consacre toujours un temps aux valeurs, à la culture, pour essayer de le challenger, parce que tu vois, t'as un vecteur de changement mécanique, parce que la boîte grandit, parce que la boîte change, parce que les personnes changent, et même si t'essaies de maîtriser toute cette culture, forcément, tu vois, t'as un peu des évolutions. Donc ça, c'est un truc hyper important auquel on attribue beaucoup de temps. Franchement, c'est assez chronophage, mais on le fait avec plaisir, et on pense que c'est hyper important, d'autant plus dans une conjoncture un peu sociale qui a un peu bougé ces derniers temps. Donc voilà, tu vois, je sais pas, ces deux exemples très focalisés sur l'exécution. C'est un peu le fil rouge de ce que je vais te raconter, mais ouais, pareil, ça, tu vois, je pense que c'est un truc où Adormi, par exemple, c'est un super bon exemple. C'est vraiment une boîte qui a été très focalisée sur l'excellence exécutionnelle, sur vraiment une espèce d'appréhension hyper rationnelle, hyper process driven, pardon pour les anglicismes, et c'est ça qui a aussi vachement fait leur succès, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie vachement de répliquer chez Cure.
Et comment tu définis l'exécution?
Ouais, c'est une question compliquée. Je pense qu'un des axes de réponse, c'est d'essayer d'être d'offrir l'expérience la plus parfaite, la plus excellente à ton consommateur, et de mettre en place tous les outils, les process, et avoir la compréhension fine du résultat in fine, de ce que tu dois mettre en place pour ce résultat in fine, et de le maîtriser. Pour moi, c'est vraiment la maîtrise, tu vois, de toute la partie invisible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est l'expérience de ton consommateur. Et la partie immergée, aujourd'hui, tu as tout un stack d'outils assez incroyable d'ailleurs. Quand tu veux lancer une boîte aujourd'hui, tu prends un Shopify, tu prends un Kudak, tu prends un certain nombre d'acteurs qui font les choses super bien, et juste avec une super bonne idée, un super bon produit, une belle histoire et du branding, tu peux lancer quelque chose assez facilement. Mais tu n'as pas forcément la maîtrise et la compréhension sur toute cette partie immergée de l'iceberg, parce que c'est pas ton expertise, parce que nous, c'est vraiment d'arriver à avoir le plus de maîtrise. Et parfois, c'est trop. Parfois, on va trop loin. On se dit, peut-être là, on va trop loin. Peut-être que là, on est en train de faire un overkill, on est en train de reproduire un truc, on n'est pas sûr de la valeur. Mais bon, après, voilà, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Mais voilà, c'est, je pense que tu vois, la métaphore, elle est un peu là. C'est vraiment d'essayer d'avoir la maîtrise de toute la partie invisible, et de tout ce qui crée la valeur pour ton consommateur, in fine.
C'est quoi le truc qui, chez Cure, marque le plus le fait que vous soyez... Enfin, le truc concret, que vous soyez focus sur l'exécution, si tu peux me donner un exemple.
Je pense qu'un truc qui est hyper différenciant, c'est que toute la tech est internalisée chez Cure. Toute la strat front, toute le layer, toute la strat data, toute la strat back, tout ça c'est internalisé, et depuis les premiers jours. Et je pense que l'exemple du Shopify, où je pense qu'il y a plein de marques, et je pense pas du tout que ça soit un défaut, je pense que c'est très bien, mais nous, on a tout internalisé. Alors aussi parce qu'on faisait de la personnalisation, aussi parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui savait faire, et aussi parce qu'on a on a su construire une équipe top qui a supporté la chose. Mais ça, je pense que c'est un énorme élément différenciant. Alors, beaucoup peuvent te dire, initialement, particulièrement quand tu es au début, et tu vois, c'est au début d'une aventure, et je pense d'autant plus quand tu n'as jamais entrepris. C'est pas forcément le... Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire pour toutes les boîtes, et je ne suis pas convaincu que ça s'applique à tout le monde. Mais je pense que nous, justement, on savait exactement où on allait par rapport à ça. On avait une roadmap hyper claire. Justement, on bénéficiait de toutes nos expériences personnelles passées, enfin professionnelles passées, de ces advisors également qu'on avait. Et on a décidé de l'exécuter comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grandes forces de Cure. Okay. Et ça se vaut aussi pour les ops, par exemple, où on a bossé très tôt sur les sujets machines et sur les softwares associés. Ça va aussi sur la R&D, sur la maîtrise de la chaîne de valeur produit. Alors ça, c'est un peu plus courant. Ça fait partie des briques qui sont souvent progressivement internalisées, je pense, en tout cas sur les D2C. Mais pas forcément dès le premier jour. Nous, ce n'était pas le cas dès le premier jour, mais on l'a fait assez rapidement. Ouais, je pense que ça fait pas mal d'exemples.
Ouais. Ouais, c'est bien. Ça en dit long. Donc, si je comprends bien, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas pris de CMS pour faire votre site internet.
Ouais.
Pareil. En fait, je me demande jusqu'où est-ce que ça va. Est-ce que le CRM, pareil, vous avez tout redéveloppé en interne
Alors, ouais, y a des trucs, y a des outils assez classiques. Enfin, classiques, non, parce qu'il y a plein de choses qu'on a recréées qui sont classiques aussi. Mais par élimination, tu vois, par exemple, tout ce qui est process, enfin tout ce qui est outils de paiement, ouais. Genre Stripe. PayPal et tout, on n'a pas créé notre
module.
CRM, non, CRM, on a un outil. Enfin, surtout la partie mailing.
Ok, que vous avez développé en interne.
Non. Non. Mais après, par exemple, on a la manière dont on gère l'outil de CRM, c'est-à-dire la manière dont on le rétro nourrit avec notre compréhension des consommateurs, notre segmentation des consommateurs, notre compartimentation de consommateurs et leur comportement, ça c'est interne. Okay. Tu vois, ça c'est deux exemples qu'on n'a pas internalisés. C'est assez dur de répondre à cette question parce que tu vois, il y a des trucs qu'on a internalisés qui semblent être le order management system par exemple. Alors nous qui est une brique essentielle de ce qu'on fait parce que 100% des commandes sont, comme on dit, made to order, c'est-à-dire que comme c'est de la réelle personnalisation, tout est généré à la commande, y compris tu vois, ta brochure, y compris ta notice réglementaire autour de ton produit, tout est généré 100% à la commande. Donc, prendre un OMS classique, donc un order management system classique, qui est parfois même intégré dans un Shopify, tu vois, ça n'avait pas vraiment de sens.
D'accord.
Mais ouais, c'est dur.
Et ouais,
il y a plein de choses. C'est assez itératif en fait.
Ouais, où est-ce que tu mets la limite en fait entre développer tes trucs en interne et essayer de réinventer la roue sur un truc qui existe déjà? Comment est-ce que vous raisonnez là-dessus?
En fait, on va essayer de voir si. En fait, on va partir plutôt d'un constat, ouais. D'un constat, d'une problématique ou de quelque chose qu'on veut essayer de résoudre. Ou qu'on veut pousser plus loin. Et on va essayer assez simplement de se dire est-ce qu'on est capable, et ça c'est vraiment le rôle de mon associé, je digresse un peu, mais la tension un peu dans nos rôles, mais la tension positive, c'est moi je vais plutôt avoir le rôle d'essayer de pousser à fond les idées, de les tirer, et Jules, son rôle, ça va être plutôt d'être un garde-fou et justement de reconcentrer vers l'essentiel de toute cette danse du ventre. Et si tu veux, on va essayer de se dire, ok, est-ce que on est capable de pondre quelque chose d'extrêmement efficient facilement, qui répond à la problématique? Est-ce que notre problématique, elle est unique, ou est-ce que ça a l'air d'être une problématique qui est super commune? Et est-ce qu'on a un bénéfice, un avantage compétitif, une synergie additionnelle à le créer nous-mêmes avec d'autres outils qu'on a, avec notre mode de fonctionnement? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à aller créer ça nous-mêmes? Voilà. Et je sais pas, un exemple assez récent, tu vois, sur des outils sur l'influence par exemple, identifier des profils, ouais. Ça, il y a plein d'outils qui le font très bien. Et nous, on utilise certaines de ces plateformes pour certains objets spécifiques. On s'est dit, ça, on va pas le réinventer. Mais toute la base de sourcing, d'identification, ça nous semblait relativement facile à exécuter. On voyait un intérêt parce qu'on a tout un programme ambassadeur, etc., qu'on a créé nous-mêmes avec nos outils. On voyait une imbrication un peu logique et qui avait du sens de le faire nous-mêmes. Et donc, du coup, on l'a fait nous-mêmes.
Ok. Parce que j'ai toujours ce raisonnement, je me dis pareil, j'ai un peu le raisonnement chez Kudak, les agences, elles veulent toujours développer un peu une brick tech, ça marche jamais. Mais en fait, tu te dis à chaque fois, si jamais j'arrive à développer un truc qui est vraiment excellent, et qui, pour le coup, l'est dans l'utilisation du produit, et je devrais mieux en faire en fait, carrément une start-up de ce truc-là. Je veux dire, quelles sont les chances que je n'ai qu'il n'y ait pas un mec qui ait pensé un truc. Bon, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer,
ouais,
mais en fait, t'as des gens dont c'est le métier de faire un truc pour les influenceurs, et ça veut dire, t'écoutes, je pense que sur cet usage, il ne répond pas bien à mon truc, donc du coup, j'ai un plus gros ROI à le faire moi-même. C'est ça que j'ai...
Mais franchement, c'est une très bonne question. Tu le disais un peu en intro, même si je pense que c'est... Voilà, je perds la prétention de dire qu'il y a des choses qu'on fait qui pourraient aujourd'hui concurrencer des trucs sur le marché, c'est pas du tout le propos. Mais c'est vrai que tu vois, on pourrait avoir notre OMS qui est capable de faire de l'hyper personnalisé. Si on le twistait un peu, qu'on le taffait un peu, ça pourrait être un produit à part entière. Et il y a des produits qui le font. Nous, ce qui est un peu particulier dans notre cas de figure, c'est que on fait encore une fois du 100% personnalisé.
C'est peut-être ça aussi que je me dis, c'est que le marché de la marque super personnalisée, en fait, peut-être qu'il est trop petit pour être adressé par un SaaS qui fait...
Ouais, et puis en fait, la personnalisation par définition, ça nécessite de la personnalisation dans l'outil.
D'accord, ok.
Ça nécessite des attributs qui ne sont pas forcément évidents, qui ne touchent pas forcément la masse. Et en fait, le temps de dev spécifique, quand tu es un CEO ou un CTO de SaaS top, aussi gros soit-il, le temps de dev, la ressource dev additionnelle pour aller identifier tous les petits pain points différents de tous tes clients qui ont tous leurs spécificités sur leurs produits. Nous, c'est du complément alimentaire aujourd'hui. Il y en a qui font du linge de maison, de la joaillerie, des trucs personnalisés, enfin tout ce que tu veux. Forcément, c'est beaucoup plus spécifique, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi vachement cette... Ça fait partie aussi de la... du raisonnement et de la spécificité de cœur.
Okay. Et donc, ce truc sur l'exécution, ça traduit aussi dans la R&D que vous avez totalement intégré, c'est ça ?
Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, je pense que ça, c'est aussi lié à notre... Enfin, il y a la brique tech, la brique science, un peu, qui sont les deux piliers un peu de ce qu'on fait. Donc, c'est lié aussi à notre volonté d'être efficient et d'avoir des produits de qualité, bon, même si c'est un peu galvaudé de dire ça, parce que tout le monde a un peu envie d'avoir des produits de qualité, ce qui est normal, mais faut pas forcément d'ailleurs, mais bref. Et nous, on est depuis le début très concentrés sur l'efficience des produits et l'impact des produits sur le consommateur. Et sur des problématiques d'ailleurs, où aujourd'hui, la majorité de la mesure qu'on fait, c'est la mesure objective, c'est la mesure déclarative. Et donc, en effet, c'était hyper important, mais pour d'autres raisons d'ailleurs aussi, j'y reviendrai, mais d'avoir cette maîtrise sur la chaîne de valeur et de comprendre comment on était capable de faire un produit efficient et d'itérer sur le produit, en fait, encore une fois. Parce qu'on apprend tout le temps et on n'a pas fait que des produits qui, du premier coup, ont été parfaitement efficaces comme on le souhaitait. Et aujourd'hui, et c'est là où, en fait, tout commence, je pense, à se mettre... en perspective, c'est que c'est là où la brique tech répond à la brique science, enfin, la brique data répond à la brique R&D, c'est que justement grâce à toute la data, la compréhension, notre capacité de les traiter, de l'exécution, le fait de l'avoir tout internalisé, ben on comprend en fait ce qui va marcher et de manière très fine, ou ce qui ne va pas marcher, ou ce qui va moins bien marcher, et ça va nourrir la R&D qui va se dire ah ben ça va falloir que je le redéveloppe, ça je peux l'améliorer, ça je peux développer quelque chose de différent pour aller adresser une autre problématique. Et comme on fait du 100% personnalisé, bah en fait, on s'en fout d'avoir plein de produits parce que nous, on n'a pas de stock, on n'est pas obligé, on n'a pas de MOQ énorme. Donc, en fait, c'est là où tout se met un peu en musique dans la stratégie et dans l'exécution.
Ok. Et tu as des exemples de façon dont vous avez utilisé la data pour faire un meilleur produit ? C'est-à-dire, tu disais, parfois, on sait que ce truc-là va fonctionner ou va pas fonctionner par rapport à ce qu'on a récolté.
Bah ouais, ouais. Enfin, je te donne un exemple très très simple. On fait un produit, et encore l'exemple auquel je pense, il n'y avait pas encore l'application, mais maintenant l'application, donc en plus on peut traquer au quotidien si les gens perçoivent une amélioration par rapport à la problématique énoncée. Tu vois, un produit est souvent relié à une problématique. Donc on va mesurer au quotidien l'impact. On va aussi avoir une espèce de checkpoint tous les mois. Il y a aussi de la téléconsultation, donc on a un certain nombre de points finaux ou de points d'étape dans la compréhension de ce qui marche et ce qui marche pas pour le consommateur. Et en fait, c'est cette boucle, finalement, cette boucle de données, elle va nous dire, bah, En fait, pour est-ce que pour un homme urbain
Ah
actif
d'accord, donc tu
de 30 ans, je sais pas quel âge t'as, tel produit par rapport à telle problématique, notre complexe anti-chute de cheveux par rapport à la chute de cheveux,
dans
c'est
ce
un problème
sens-là,
qui
oui.
me touche personnellement. Ça fonctionne ou pas? Et en fait, en fonction de ça, on va creuser et puis en fait, on a un volume de data qui est hyper fort et puis on va se rendre compte que bah, pour les hommes au-dessus de 30 ans, ça a l'air de marcher, mais pour les hommes en dessous de 30 ans, ça n'a pas l'air de marcher. Du coup, l'équipe R&D, elle va prendre l'info et elle va aller chercher dans la bibliographie scientifique, elle va parler à notre comité scientifique, elle va parler à nos labos partenaires, elle va se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas un autre actif, est-ce qu'il n'y a pas un autre complexe, est-ce qu'il n'y a pas un autre ingrédient breveté qu'on peut aller chercher pour adresser cette
Ok.
problématique. Et comme ça, en fait, on va itérer. Et tu vois, sur nos 51 produits, il y en a un certain nombre, et nos consommateurs le savent, on est toujours très transparent par rapport à ça, on a déjà fait évoluer, améliorer la formulation par rapport à ça.
Ok. D'accord. Et tout ça vous permet en fait d'isoler du coup des segments un peu d'utilisateurs. Et tu as des exemples, c'est quoi? Genre un segment d'utilisateur, c'est quoi? C'est j'ai 25 ans, problème de cheveux, j'ai pris la cure pendant tant de temps.
Bah, la réponse, c'est qu'en fait, il y a une infinité de segments. Parce que dans le test,
Ceux qui sont vos gros segments, en fait.
je sais pas si tu l'as fait, j'espère. Mais tu vois, dans le questionnaire initial, comme je le disais au début, il y a une soixantaine de questions. Et alors, il y a des questions assez génériques sur ton âge, où est-ce que tu vis, ton genre, etc. Tu as des questions un peu plus spécifiques par rapport aux problématiques que tu vas sélectionner. Tu vas me dire, bah, moi j'ai des problèmes de digestion, des problèmes de stress, etc. Tu vas rentrer dans des sous-questions un peu plus spécifiques. Ensuite, on va avoir toutes les questions plutôt liées à ton mode d'alimentation, ton mode de vie. Tu vois, je sais pas, à quelle fréquence tu fais du sport, est-ce que tu bois, à quelle fréquence, Enco. Et en fait, tous ces éléments, ce sont autant d'attributs qui nous permettent de segmenter dans la granularité notre compréhension in fine du consommateur ou pas. Il te faut un volume minimum,
Ouais.
tu vois, au niveau d'ADA pour que ça soit, qu'il y ait une robustesse. Mais en soi, ça te fait des sous-segments assez infinis. En plus, maintenant, on a les
Ouais.
géographies. Donc en fait, on observe aussi des comportements ou des réceptions différentes en fonction des géographies.
Ma question, c'est est-ce que tu arrives du coup à identifier, en fait, tu te rends compte, en fait, les gens qui ont les plus grosses LTV, c'est toujours un même type de personne, je sais pas.
Oui. Franchement, il y a des attributs assez basiques, genre bah, plus t'es âgé,
Ouais,
plus tu
d'accord.
dépenses. Mais bon, tu vois, c'est un peu des évidences. Enfin, pas
Mais je sais,
forcément
par
pour.
exemple, je sais pas. En fait, la question que je me pose, c'est vraiment comme vous êtes très personnalisé, vous répondez à beaucoup en fait, de
Ouais.
problématiques. Est-ce que tu te dis, écoute, je sais pas, les gens pour lesquels je résous le problème de digestion, je me rends compte, en fait, les mecs ont plus que 35 ans, c'est les gens, ils sont chez moi super longtemps.
Ouais, bah oui, ça oui, bien sûr, ça on se rend compte, et ça c'est aussi des sphères, tu vois, c'est là où on va se dire, ça par exemple en R&D c'est assez intéressant, oui, donc la réponse est oui, mais on va pas aller chercher la niche dessus,
D'accord.
tu vois, mais on va potentiellement soit développer plus de produits, plus de solutions, plus de contenu, les identifier, on va potentiellement aller jusqu'à développer des funnels dédiés, des funnels plutôt côté acquisition, on va identifier qu'il y a certaines sphères qui marchent hyper bien, où on a des produits hyper efficaces, du coup, la R&D va dire, on va voir qu'on va développer plus de produits dans cette sphère pour répondre à plus de sous-problèmes, en fait, si tu veux. Et puis après, on va travailler un funnel dédié, on va travailler des ads potentiellement dédiés, on va travailler, et en fait, nous, mécaniquement, toutes les expériences de suivi, toute la marketing automation, toute ton expérience derrière, elle est déjà mécaniquement personnalisée. Donc, ça te fait vraiment plein de funnels hyper différents. Et ça, oui, ça, on le fait. Et même je la pousse, même dans la vision, l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers ça. Et justement, toute l'internalisation au niveau de notre capacité tech, data, R&D, ops, tous ces sujets-là, c'est censé. En tout cas, c'est la théorie stratégique qu'on a, parce que ça s'avérera être vrai. On verra. Mais c'est censé nous permettre demain, justement, d'avoir une multitude, une infinité de parcours extrêmement différents et extrêmement fins dans la manière de répondre à des problématiques.
Ok, donc finalement, ouais, d'accord. T'as pas besoin qu'il y ait un énorme groupe de gens similaires qui se séparent, finalement, toi,
Bah, ça, il peut y avoir des intérêts, tu vois, d'un point de vue acquise.
Ouais.
Tu vois, je sais pas, tu vois, il y a des exemples. Des exemples notoires de startups où tu vois, ils ont identifié un go-to-market hyper précis. Je sais pas, les gamers, putain, on a vu que ça marchait, du coup, on va les adresser à fond. On va twister un peu notre produit, notre funnel pour aller les adresser à fond. C'est des opportunités. Ça devient des opportunités d'acquisition. Et ça c'est un travail que fait l'équipe au quotidien, mais qui sont des espèces de petites itérations. Nous, on va pas mettre même si on l'identifie, on va pas mettre un gros coup de projecteur et de focus uniquement sur une, sur un groupe. On ne va pas le faire comme ça. On veut vraiment avoir cet ADN de personnalisation et donc d'avoir la capacité d'adresser le plus grand nombre. Bien, mais voilà, encore une fois, bien sûr, tu as des constats de sous-segments et tu vas te dire, bah, celui-là, va falloir aller un peu plus loin. Mais si tu veux, et après, tu pousses un peu comme ça, c'est un peu itératif et progressivement, tu pousses un peu tous les curseurs et puis ça nivelle le truc.
Ok, d'accord. Et est-ce que... Parce que je trouve ça impressionnant que vous fassiez 40% de vos ventes hors dehors de France.
Ouais.
Je pense que c'est l'un des plus gros pourcentages des invités que j'ai reçus dans ce podcast. Quel est l'impact du fait d'avoir créé... Je me demande comment est-ce que c'est lié au fait que vous avez créé plein d'outils en interne.
Ouais.
Une architecture qui en fait est quasi scalable.
Bah c'est complètement
à l'étranger.
Lié. Franchement, ouais. C'est complètement lié. C'est un autre des arguments et une autre de nos intentions stratégiques initiales. C'est on s'est dit avec Jules, ok, on veut faire une boîte internationale, au moins européenne. Et on s'est dit justement, c'est quoi les barrières un peu que tu as quand tu sors de ta géographie? Ça va être généralement des barrières opérationnelles, réglementaires, d'adaptabilité ou de compréhension du consommateur, de capacité justement de malléabilité sur ton produit ou sur ton expérience pour t'adapter aux aspérités du conso. Voilà, ça va être un peu toutes ces problématiques-là. Enfin, en tout cas, nous, c'était un peu notre interprétation, pardon. Et en effet, encore une fois, cette espèce de triptyque là qu'on a évoqué, tu vois, d'internalisation tech, R&D, ops, on s'est dit, si on a la maîtrise de ça, normalement, on devrait pouvoir contourner un peu ces barrières et aller de manière assez facile. C'est pas vraiment facile, mais... en tout cas un peu plus facile dans ces autres géographies et on a eu le parti pris et parfois on est challengé sur ça hein, tu vois quand on lève des fonds parfois on me dit pourquoi pas devenir capturer tout ton marché et puis après tu réfléchis à l'ailleurs. Je pense que les mentalités changent pas mal hein, parce que aujourd'hui maintenant et la majorité des fonds,
t'as des gens qui te disent ça, t'es dit, mais reste en France, prends
bien tout. Bien sûr.
T'as des fonds,
il y a des fonds qui disent ça, t'as des fonds qui te disent capture ton marché à fond, sois fort sur ton marché, sais exécuter ton marché, scale sur ton marché et après tu répliqueras.
Et qu'est-ce que vous répondez du coup face à ça? Non, c'est mort.
Non, de toute façon, la machine est déjà lancée.
Ouais.
Non, mais je pense que c'était plutôt un peu, c'était un peu plus à notre face, c'était plus sur nos levées d'avant qu'on avait ce feedback. Ouais. Là, je pense que c'était plutôt une farce pour le coup. Parce que, et surtout pas parce qu'on faisait, c'est pas forcément le montant du chiffre. C'est plutôt... Si. Mais c'était surtout qu'on avait prouvé... Enfin, on n'a pas complètement prouvé, mais on avait quand même vraiment réussi à démontrer la capacité de ce modèle, justement, d'accord, un peu internalisé, à aller péter ces barrières-là. Et je pense que là, ça avait de la valeur. Mais oui, c'est vrai qu'au début, franchement, on nous disait, reste focus au début, reste focus sur ton marché. Et puis, on a plein de marques concurrentes qui sont créées. Alors, avec des angles différents, des positionnements différents, qui font les choses très bien et très différemment que de nous. Et c'est vrai que, au début, il y a eu une espèce de masse dont on faisait partie, enfin, dont on fait toujours partie d'ailleurs, qui faisait les choses un peu différemment. Et forcément, je pense que côté investisseur, t'as un peu envie de te dire, avant que le mec, il aille se défocus, perdre de l'énergie sur ouvrir un autre marché et puis un peu avoir cette espèce de d'écran de fumée parce que t'as vidé Early Adopters et t'as l'impression que c'est un Eldorado puis en fait tu tapes vite un plafond de verre, donc ça nous est arrivé.
C'est quel marché par exemple vous êtes tapé un plafond de verre?
L'Italie.
Ouais,
l'Italie, très vite on a eu de l'attraction assez rapidement en faisant un peu le playbook qu'on avait déterminé et puis on s'est tapé un petit plafond et puis après on y allait comme des bois puis on s'est dit oula en fait non là il y a là, va falloir repenser un peu ce qu'on s'est dit ou aller un peu plus loin et comprendre un peu quels sont les leviers un peu clés. Et voilà, je pense que dans ce cas-là, ça fait partie du process. Mais du coup, toute cette ossature exécutionnelle, encore une fois, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis. Je ne dis pas que c'est une réelle nécessité, mais c'est quand même un point, je pense, assez différenciant et un gros élément de notre côté une grosse force de notre côté qui nous a permis d'aller encore plus vite de ce côté-là. Je ne dis pas que c'est une absolue nécessité pour tout le monde, mais je pense que ouais, c'est un vrai
avantage. Ça fait sens par rapport à ce que vous avez construit.
Ouais. Et tu vois, en fait, même d'un point de vue, je te prends l'exemple, je ne sais pas moi, il y en a plein d'exemples, mais l'exemple réglementaire, tu vois, tu as des réglementations un peu différentes sur les géographies. Là, nous, on est capable d'adapter hyper facilement en fonction des réglementations, les questionnaires, les produits, etc., parce qu'on a la maîtrise de tout ça. Et c'est beaucoup plus facile pour nous.
D'accord. Ouais. Tu parlais de ce petit playbook classique d'ouverture de pays. C'est quoi, je fais une campagne d'ads?
Ouais.
Globalement, c'est ça.
Ouais, franchement, globalement, c'est...
Je pourrais, non?
Voilà, encore une fois... Le fait d'avoir eu toute la maîtrise, nous, de notre côté, on a... tu vois, tu fais de la... Tu traduis, tu testes. Tu testes avec une campagne d'ads. Tu analyses avec ta grille de lecture et ce qui te semble être les KPI qui sont importants pour toi. Mmh. Et puis, une fois qu'il y en a un ça te donne une sensation de feu vert, tu y vas, quoi.
Ok.
Franchement, assez simplement, c'est ça.
Ok, et c'est
enfin pour nous, mais ouais. parce qu'encore une fois, en fait, nous on avait du fait de la personnalisation, du fait qu'on maîtrise toute la tech et la data, du fait qu'on maîtrise on a nos machines et qu'on fait du 100% personnalisé, du 100% made to order. En fait, pour nous, de traiter une commande allemande, italienne ou turque, c'est pareil que de traiter une commande française. D'un point de vue tech, d'un point de vue R&D, d'un point de vue opérationnel, c'est la même chose. 100% la même chose. Il n'y a pas de différence. Allez, modulo, le logisticien qui n'est pas le même pour ton expédition, mais bon, à part ça, c'est la même chose. Ce qui n'est pas le cas de, je ne sais pas, on prend n'importe quelle, en tout cas la majorité des boîtes, si tu veux lancer en Italie, il te faut ton produit en italien, quoi. Il te faut ton étiquette en italien, il te faut du stock, du coup, il faut un nouveau stock. Et puis, du coup, tu prends un risque, tu as un risque additionnel, parce que du coup, tu vas te commander ta MOQ de tes produits, et puis en fait, s'ils ne tournent pas, ils ne tournent pas. Et tu les as sur les bras, et puis, tu vois. Et puis, réglementairement, potentiellement, tu dois changer. Si dans ton produit, n'importe quoi, tu vends des crèmes, dans ta crème, il y a un de tes ingrédients qui est en fait interdit en Italie, tu dois changer la formule de ta crème.
Mais ça, je comprends pourquoi vous les auriez pas, vous, ces contrats.
Parce que nous, si notre magnésium il est interdit en Italie, on vend pas notre magnésium.
Ok, parce que t'as plein d'autres produits. En fait.
Parce qu'en vrai, qu'en fait, nous, la personnalisation, elle se fait au sachet, si tu veux. Okay. Donc en fait, oui, ça D'accord. serait dommage de pas pouvoir. Bon, en l'occurrence, le magnésium, c'est pas le vrai exemple, mais il y a des produits comme ça où en fait, si tu veux, nous, on les enlève et potentiellement, on n'est pas capable du coup d'adresser ce problème aussi bien qu'on l'adresse en France. Mais on peut adresser 95, un pourcentage significatif, quasiment total, de l'ensemble des autres problématiques. Donc si tu veux, nous, on peut moduler de cette manière-là.
Ouais. Salut, c'est Théo. J'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais. Et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail, il est simple. J'aide les marques à grossir sur Internet. Pour ça, j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités. Koudak pour le growth e-commerce, Le Labo pour les créas e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn et 9/16 pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences, dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner. Ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas, hein? Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canapé. J'attends. A few moments later. C'est bon? Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. C'est peu beaucoup pensé, ça confirme ce que je disais au démarrage, c'est que tu l'as pas monté comme une marque e-commerce, mais vraiment comme une start-up dans le sens où ça fait beaucoup penser. J'ai reçu Damien Morin de Mobile Club dans ce.
Ouais.
Dans ce format, qui était très fier. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a montré l'architecture qu'il avait construite pour du coup gérer des iPhones reconditionnés, qui est un bordel monstre.
Ouais.
C'est terrible. Il disait, moi je suis super content, j'ai un truc que je gère 1000 ou 100 000 commandes, c'est la même chose pour moi. Et en fait, ça c'est une façon très start-up, je trouve, de faire le truc, c'est-à-dire de prouver que mon machin il va être scalable. Je prends un risque plus important parce que c'est du temps que je passe sur que je pourrais passer sur autre chose.
Clairement.
Mais par contre, après derrière, si je délivre ma promesse. Je fais un truc monstrueux. Et vous, c'est vers ça que vous allez partir.
Ouais, c'est franchement, c'est ça. Hein, c'est ça la philosophie. Et tu vois, même là, dans la phase dans laquelle on est, je t'en parlais en off, en arrivant. Mais dans la phase dans laquelle on est, on vient de lever, c'est super. Et en plus, on a une bordée des investisseurs top. On est hyper content. Et tout va bien, franchement. C'est trop bien. Mais là, on est dans une phase où le premier truc qu'on fait, c'est on atterrit justement un peu à cette levée. On est un peu dans l'inertie et on essaie de justement de faire en sorte d'avoir, de consolider tout notre socle exécutionnel une nouvelle fois pour être prêt à scaler comme des bois. Et en effet, exactement cette philosophie de se dire je traite 100 000 orders comme 10 000, ça a toujours été notre mode de raisonnement. Et là, on est exactement dans cette phase-là, quoi. On est vraiment à ce socle-là. On veut le finir, on veut le peaufiner. C'est de l'équipe, c'est des recrutements, c'est des process, c'est des adaptations des outils et tout pour se dire OK, là, on a cette vision, on va aller là. Ayons tout le socle, ayons toute cette base extrêmement solide pour pas dépenser notre argent dans un panier troué, quoi. Et en fait, après, plus tu grossis, plus t'as de l'inertie, plus c'est compliqué, plus le burn en fait en valeur il est gros, plus, enfin, tu vois. Donc ouais, c'est complètement cette philosophie là.
Ouais. Donc aujourd'hui, bon, on parlait d'ads, vous dépensez sur quasiment toutes les régies qui existent.
Ouais, en ligne, ouais, on est plutôt sur l'ensemble des. Ouais,
donc Meta, Google, faites du Snap.
Ouais, ouais, on fait tout, franchement.
Tout, et la question, c'est est-ce que tout fonctionne ?
Non, ça dépend des moments, ça dépend du mix marketing. Là, on vient de faire une grosse campagne télé, enfin grosse, non, c'est prétentieux de dire ça. On a fait une nouvelle campagne télé, c'était notre deuxième, tu vois, et ça crée des polarités différentes, ça crée des équilibres différents. C'est des moments où YouTube va un peu mieux marcher. Enfin bref, non, c'est difficile de te dire tout marche. Non, c'est pas vrai, tout marche pas. Ce qui marche, et on en revient à l'exécution, c'est notre capacité. Enfin, je pense en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de justement d'arriver à trouver les bons équilibriums progressivement et tu vois, et de jongler un peu et d'arriver à tout monter progressivement. C'est ça. Mais il y a des moments où. Notre équipe grosse qui est trop forte, ils nous disent bah ouais, là, mais là ça marche pas, bah oui ça marche pas, mais on essaie de comprendre et on va chercher dans nos data, on creuse, on rééquilibre, on change, et, voilà. Donc non, okay. Tout marche pas, mais tout marche un peu.
Okay. Et la télé, du coup, si c'est votre seconde vague, ça veut dire que c'est un truc vers lequel vous allez aller vers le futur?
Ouais, oui.
Vous êtes content?
Oui. Enfin, non, mais je peux pas dire que c'est. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est très très différent de ce qu'on fait. Nous, on a ce côté très data driven et tout. On a besoin de tout maîtriser et de tout rationaliser. Et en fait, mécaniquement, quand t'es sur du offline, d'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs qui m'écoutent à essayer de lancer un business en télé parce que je pense qu'il y a, c'est encore un média hyper fort et franchement, il y a des outils associés, c'est quand même. C'est limité, enfin, moi je trouve. Mais bref, parenthèse refermée. Mais en fait, c'est un truc qui est beaucoup moins maîtrisable, en fait. C'est beaucoup moins tangible. Et en fait, c'est... Du coup, déjà, moi, pour nous, c'était un peu perturbant. De se dire, putain, on n'est pas capable de comprendre hyper finement ce qui s'y passe. Après, je pense qu'il y a... Enfin, humblement, tu vois, il y a aussi vachement de learning associé. Parce que c'est un canal qui est très très différent, qui s'opère de manière très très différente, où tu dois aussi trouver d'autres formes d'équilibre. Donc, je parlais d'équilibre entre tous les, mais ton mix marketing, mais en effet voilà, c'est un média d'impact hyper fort, de noto hyper fort, et en fait les effets se font pas forcément ressentir immédiatement. Tu vois, t'as pas ton attrib parfaite, enfin bon, même si les attribs des plateformes c'est toujours voilà, mais tu connais bien ça, mais tu vois, t'as pas une attribut hyper claire, donc t'es obligé de construire plein de modèles d'attribution, de les croiser, de voir ce qui a le plus de sens. Donc, mon réponse est oui, avec cette tête-là, parce que oui, enfin, c'est pas nul, c'est pas incroyable, on va voir. On est encore en phase de learning, quoi.
Ok, d'accord. T'as peut-être des... Parce qu'en fait, le mix d'acquisition que vous avez est très classique, vous avez pas trouvé des petites pépites, je sais pas, vous avez pas réussi à faire fonctionner TikTok at scale, ou des trucs comme ça.
TikTok on fait,
ouais.
Et TikTok ça marche pas mal, c'est assez jeune, bon franchement je vais pas apprendre, non enfin j'ai pas de,
c'est
j'ai
pas de truc original,
non, franchement non, nous on est pas très
des classiques bien faits,
voilà, c'est des classiques bien faits et bien équilibrés je dirais, mais franchement on fait rien de révolutionnaire ou mis à part notre voilà, encore une fois la capacité à être un peu un bon chef d'orchestre dans tout ça. Je pense que ça on le fait très bien. Mais il n'y a pas forcément d'unicité là-dedans, quoi.
Okay. Sur le système, il y a un autre levier d'acquisition qui est votre référal, enfin tout ce qui est partenariat, enfin, non pas pardon, pas partenariat, affiliation, etc. Donc référal client,
ouais.
Que vous avez, qui est encore une fois un outil que vous avez développé en interne.
Ouais.
Comment il fonctionne?
Le programme,
et l'outil aussi.
Ouais, bah c'est un programme. Franchement, c'est un programme de parrainage assez classique. Ouais. Hein, y a pas de. Enfin, encore une fois, c'est pas un truc où on est. Mais après, nous, c'est la manière dont on l'a construit, on l'a poussé, on essaie de le. De. C'est un programme de parrainage assez simple. Hein. T'es consommateur, t'as un code de parrainage, tu peux parrainer. Enfin, franchement, c'est.
Et pourquoi vous l'avez redéveloppé?
Celui-là, franchement, c'est une bonne question. Et pourquoi on a fait ça? Bon, en vrai, c'est pas super compliqué.
Ouais.
Mais en fait, mécaniquement, tu vois, typiquement, je crois que. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que Shopify, maintenant, aujourd'hui, tu peux créer ce programme-là. Enfin, il y a un plugin Shopify, tu peux faire ça. En fait, nous, de base, on n'a pas de Shopify. Donc, de toutes les manières, on est obligé de faire notre propre plugin. Tu vois. Là, celui-là, ce coup-là, c'est peut-être un truc qu'on était coincé.
Ouais.
Mais franchement, celui-là, c'est. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que en effet ça représente quand même une part assez importante, et c'est aussi une mesure d'impact, tu vois, le nombre de gens qui réfèrent. Alors bien sûr, t'as une incentive en tant que consommateur à avoir des réductions ou peu importe, donc il y a ça, mais il y a aussi une forme de satisfaction. Tu vas pas recommander un produit que tu trouves nul à ton meilleur pote ou
c'est une part
ou à ta
significative
mère.
Du CA que vous avez sur le référal,
c'est une partie conséquente de l'acquisition. Ouais.
Ok.
Du CA, oui,
ouais,
oui,
non, enfin, okay, bon, mécaniquement, ce que je voulais dire, ouais. Ok. De l'acquisition de nouveaux utilisateurs.
Ouais.
Ok. Super clair, je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai marqué stack d'outils, mais en fait, tu vas me dire mon truc de référence, mon truc de.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous utilisez comme outil externe que vous n'avez pas développé?
Ouais, ce que je disais, bah, Stripe. Nous, on a notre. En CRM, ouais. On a Customer.io, qu'on trouve très bien. Après, il y a. Enfin, nous, on est sur la partie tech, on a plein de microservices. Voilà, et je ne suis pas du tout habilité. Je me fais engueuler si je parle de ça, parce que je vais dire des conneries. On a quoi dans les outils un peu clés qu'on utilise? Le stack Google. Ouais, bah c'est important. Et après, tu vois, tous les outils plutôt internes, tu vois, genre, ouais. Évidemment, tu vois, Slack, Notion. Voilà, ce genre de truc où évidemment, enfin non, oui, tu vois, ça je pense qu'on est assez classique encore une fois, je pense qu'on n'est pas révolutionnaire là-dedans, mais on essaie, tu vois, de pareil, d'avoir des process assez efficaces, de, tu vois, ça c'est aussi, je pense, je parlais de culture de boîte, et c'est des sujets qu'on prend vachement au sérieux sur la manière dont on travaille au quotidien, la manière dont on échange, la manière dont on documente les choses, la manière dont on construit les process, dont on itère sur les process. Franchement, c'est un truc sur lequel on passe beaucoup de temps. Et parfois on se challenge, on se dit est-ce qu'on en fait trop ou parfois peut-être qu'on en fait pas assez.
Il y a un truc où vous essayez d'aller enculer des mouches, genre, vous êtes allé trop loin.
Ah ouais, mais surtout qu'en plus Jules et moi parfois on a aussi des personnalités.
Ça part.
Ouais, je pense que parfois nous,
genre
nous spécifiquement, après on fonctionne très bien comme ça, ouais. Tous les deux, et on en rigole à deux. Est-ce que j'ai un exemple concret? Non, mais après là c'est vraiment de la. C'est pas psychologique qu'autre chose, tu vois, ou comportemental, mais. Ouais, on va être tout à fait capable de partir dans une conversation d'une heure en se disant, mais en fait, là, on est en train vraiment d'être dans un niveau de détail et de digression. Tu vois, arrêter là, on est en train de. Je pense que parfois, ça fait marrer les équipes parce qu'ils sont un peu obligés de naviguer avec ça. Mais bon, non, en vrai, on se maîtrise. Hein. C'est plus ce qu'on est que tous les deux. Mais ouais, est-ce qu'il y a un exemple où on s'est dit qu'on était allé trop loin? Un exemple concret d'un truc qu'on a fait? Ouais, franchement, il y a un exemple assez concret, c'est qu'on a fait tout un truc hyper sophistiqué pour les professionnels de santé avec lesquels on bossait, mais un peu juste, et ça, tu vois, c'est plus que le côté les métiers du product, quoi. Donc là, on était là en mode ouais, putain, faut faire ça, c'est sûr, c'est une évidence, putain, on a trop bonne idée et tout, on y va à fond, on a des. Mais à coup de pas, Jules, si tu écoutes ce podcast, il avait dit ouais, là on va trop loin. J'avais dit mais si, on y va. Tout. On a développé le truc, jamais personne qui l'a utilisé. Et franchement, ça nous a pris du temps, quoi.
Ouais.
Donc ouais, il y a toujours un peu des ratés, mais après, ça, je pense que ça fait partie de la vie des boîtes et de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu apprends, parce que ça, moi, je crois vachement en le fait que tu vois, tu tentes quelque chose, tu construis quelque chose, tu te rates, mais en fait, il y a autre chose qui germe. Mais en fait, après deux, trois plantes pourries, tu en auras une belle qui finira par émaner, à laquelle tu n'aurais pas forcément pensé si initialement, tu n'avais pas pris le risque de planter cette première graine. Donc. Et on, tu vois, je pense que dans la mentalité, même un peu, tu vois, ça fait. Alors, dans des trucs un peu qui sont différents, tu vois, notamment dans les dans la manière d'entreprendre aux US. Ça, je pense que c'est vachement dans la mentalité, tu vois, de tester, de se planter, pas du tout avoir peur de l'échec, et un peu essayer de valoriser vachement l'échec. C'est un peu aussi dans cette philosophie-là, quoi.
Ouais, tu l'as vu se traduire différemment en France. Ça te... La tolérance à l'échec, c'est un truc que tu...
Ouais, franchement, moi, il y a un truc qui est assez vrai, tu vois. C'est souvent quand je raconte, quand je rencontre des fonds et tout, et que je raconte, et que je disais, voilà, je racontais ma boîte d'avant, je disais, bah ouais, on a fini. Enfin, je dis souvent de manière assez abrupte, et ce qui est vrai, tu vois, c'est qu'on a fini par la planter, quoi. Enfin, en tout cas, la boîte a été revendue, elle existe encore, elle marche très bien d'ailleurs. Mais par rapport au succès qu'on souhaitait, on l'a pas, enfin, déjà on l'a pas vendu aussi bien qu'on aurait dû la vendre. Enfin bref, ça a été une sortie par le bas, hein, très clairement. Et en fait, souvent, tu vois, je disais ça et mais l'interlocuteur disait ah ouais putain c'est honnête, c'est bien de le dire. Généralement, les gens ils vont pas le dire. Je dis mais si, mais c'est en fait, enfin c'est trop bien d'avoir. Enfin moi vraiment je le vis comme un. Franchement, ça a été dur. Il y a eu des phases de cet échec-là qui ont été dures. Tu vois, les phases où on a dû se séparer de la majorité de l'équipe, tu vois, les phases où on ne pouvait pas payer les factures enfin, nos partenaires historiques, ou enfin bref, peu importe. C'était des moments durs, mais franchement, j'ai vachement appris. Et tu vois, il y a les moments où tu es un peu plus dans la tempête, tu vois, chez Cure, ça arrive. Et en fait, moi, tu vois, un truc d'avoir vécu l'échec, c'est que je sais que là, en fait, ouais, on a l'impression, on peut avoir la sensation de la tempête. En fait, je dis pas que j'ai tout vécu, mais juste sur ça, tu vois, j'ai vu des tempêtes encore plus fortes et j'ai vu que tu pouvais encore tenir le cap encore un certain temps. Tu vois, ça te laisse un peu cette logique de réserve. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un truc. Parfois, c'est un peu étonnant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise de dire, bah ça, je l'ai planté. Alors que, ouais, je sais pas, moi, je trouve que pour moi, à titre très personnel, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une vraie ressource, quoi. Ouais, je suis hyper content de l'avoir vécu. J'aurais pas appris autant sans cet échec.
Est-ce que tes inspirations, t'as quand même des inspirations D2C, genre de boîtes que tu regardes, ou c'est vraiment la startup de manière plus, au sens plus large qui t'inspire?
Ouais, je pense que c'est plutôt la startup au sens large.
Ça sent vraiment...
Franchement, c'est la startup au sens large. Bah, je pense. Nous, il y a une boîte dont on s'inspire pas mal, même dans la manière de fonctionner, qui est Adormi. Donc, encore une fois, bon, Jules a eu la chance de la connaître très bien depuis l'intérieur. Mais c'est vrai que ouais, c'est une boîte aussi qui nous correspond en termes de mode de fonctionnement. Il y a des trucs qu'on fait différemment. Il y a des trucs, bien sûr, enfin, on ne fait pas du tout un réplica de leur mode opérationnel. Mais c'est vrai que philosophiquement, c'est un peu... Ouais, c'est une boîte, franchement... parfois, on va poser la question à Morgan, le fondateur d'Adormi, on va lui dire... Là, à ce moment-là, quand vous avez cette problématique, vous avez fait comment, quoi?
Et on discutait avec lui, du coup?
Ouais, cool. Pas mal, ouais. Il s'en autorise.
Adormi, c'est 400 millions, je crois, qu'ils ont vendu. Montant est public, je crois.
Ouais, je crois.
C'est une belle expérience.
Ouais, non, ça... c'est top. Enfin, c'est une super boîte. Dans les boîtes US, il y en a pas mal que, tu vois, il y avait Casper qui était un peu identifié comme...
Qui a un peu souffert d'ailleurs, du
ouais,
coup.
Ouais, mais si tu veux, moi, à l'époque de Trade World, donc du coup de la boîte d'avant, Casper, c'était un peu une des références. Ouais, non, franchement, je suis pas capable d'aller... Mais nous, on puise pas mal de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui font... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs bien dans plein d'industries et dans l'entrepreneuriat global, tu vois, donc... Je sais pas, nous, on puise un peu des inspirations à droite à gauche. Je sais pas, un modèle identifié.
Sur le sujet Casper, ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois quelle sortie en fait pour un peu les D2C parce que tu vois, Casper ont essayé de la faire à l'IPO, je peux pas me revendre dans un grand groupe, etc. Ils se sont fait fumer sur l'introduction en bourse.
Ouais, il y en a pas mal.
Ouais, t'en as beaucoup. Bah, de toute façon, c'est pas que en fait, tout le monde a souffert. Allbirds, même chose, etc. Tout le monde a souffert. Moi, je me demande en fait, est-ce que ce modèle-là, en fait, il est moins innovant que ce qu'on pense. C'est-à-dire, finalement, c'est une marque régulière. C'est pas spécifique que ce soit une D2C.
Ça dépend comment l'exécuter.
En fait, toi, tu t'es déjà posé la question de à quoi pourrait ressembler Cure dans le futur. Ça, c'est quoi? Le but, c'est de revendre un grand groupe. Est-ce que tu peux vraiment faire un truc qui pourrait vivre de lui-même, être profitable un jour, etc. Tu vois?
Oui. Ah bah oui. Et je pense que d'autant plus dans notre conjoncture.
Parce que les grosses américaines, t'en as aucune.
Macroéconomique actuelle, vaut mieux que tu te dises qu'il y a un moment où tu vas pouvoir être profitable, quoi.
La question que je me pose, je me demande si c'est possible. À l'échelle aussi grosse que ce qu'ils ont fait, les Casper, les Allbirds et tout, tu vois.
Ah ouais, je pense que ouais. Moi, je pense que oui. Enfin, et il y a des exemples.
Ah ouais? Je les connais pas trop.
Ouais, vraiment. Franchement, il y a des exemples de grosses boîtes qui arrivent
à être... T'es dit aussi en bourse, etc., qui ont...
En bourse, je suis pas capable de te dire, mais j'ai des exemples de grosses D2C en tête. Je sais pas s'ils communiquent trop sur ça, mais ouais, j'ai des exemples okay. de grosses D2C qui... Après, t'as forcément un moment où t'as un trade-off, quoi. T'as un trade-off sur la vision, où est-ce que tu peux tirer ta marque, jusqu'où tu veux aller. Tu restes sur une route très... je lève des fonds, je développe à fond ma vision... je crame, je grossis, je capture le marché. Ou si t'es dans, il y a un moment où si tu optes plus sur la profitabilité, t'as une forme de trade-off qui s'opère et forcément, ça passe par d'autres zones de focus et d'autres décisions stratégiques et potentiellement ça capte un peu plus le potentiel. Mais je pense que c'est un bon point. Hein. Enfin, en tout cas, je pense que c'est légitime et c'est vrai. Je pense que de dire que tu de lancer une D2C en disant je vais faire une licorne même si j'aime enfin, voilà. C'est compliqué, je pense que ouais il y a du taf quoi.
Que vous en plus réfléchissez souvent la solution un peu qu'on propose à Casper etc, c'est maintenant vous êtes des marques classiques, faut faire du retail comme tout le monde. Vous, votre modèle n'est pas compatible avec le retail.
Ouais, on essaye franchement, enfin nous en tout cas la volonté, et ça fait partie des axes stratégiques, c'est aussi d'avoir une stratégie omnicanal.
Comment tu fais la personnalisation at scale comme ça en retail?
L'idée justement c'est d'arriver à apporter une expérience de personnalisation en retail. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de moyens de le faire, nous on a pensé à un certain nombre de moyens. Là on est justement en train d'accélérer pas mal sur ça.
Trop cool.
Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas.
Tu peux dire, c'est secret
pour ouais, ça, non, c'est vraiment d'essayer de répliquer l'expérience cure
en boutique retail. En propre,
ouais, en boutique. Ah non, pas en boutique en propre.
Non,
pour l'instant, pas en boutique en propre. Okay. On fera les boutiques en propre. On y a déjà réfléchi et tout, mais je sais pas si c'est très pertinent. Ça pourrait être plus du branding en l'occurrence, ça. Je pense que ça a de la valeur. Je pense qu'il y a des boîtes. Il y a des boîtes qui le font super bien, tu vois, qui font des flagships de branding justement pour présenter beaucoup plus leur univers, leur expérience. Et ça, je pense que ça peut avoir de la valeur. Nous, on le fait pas, c'est pas un projet actif. On y a déjà réfléchi, est-ce qu'on le fera, je ne sais pas. Non, via des réseaux de magasins, je pense que. Enfin, pas en propre.
Mais comment tu fais deux exposants 51
en magasin? Tu fais faire le test en magasin. La question, c'est arriver à faire
le test. Et tu te fais livrer en. Ah, ouais. D'accord. Ok. Ah, oui, non, ça tue.
Ouais.
Ok.
Si on arrive à le faire, ça, c'est bien.
Ça peut être charmé. J'avais des modèles comme ça qui étaient pas mal et qui avaient réussi à lever de l'argent. Il fut un temps, je me souviens plus des noms, mais c'était sur de la bijouterie très haut de gamme qui te faisait l'expérience en magasin. Tu réserves un moment en magasin pour aller commander. Du coup, t'as des coûts d'acquisition qui sont du online.
Ouais.
Et tu te manges des produits qui sont super chers.
Ouais. Bah, tu sais, ça aussi des stratégies. Tu peux faire ça. Tu peux driver des consos online vers des magasins. Tu peux faire l'inverse. Mais je pense que ouais. En tout cas, c'est sûr que peu importe les niveaux de boîte ou d'ambition, à un moment, et c'est vrai pour des marques, tu finis par, si tu veux continuer de grossir et de capturer le maximum de ton marché, le retail, ça reste quelque chose d'ancré. Nous, sur notre marché, c'est particulièrement ancré d'ailleurs. Sur le marché de la santé, c'est quand même un truc, tu vois, les pharma, les parapharma, Enco, c'est quand même hyper présent. Ça reste quelque chose que tu vas devoir réussir à craquer, mais bon. Aujourd'hui, tu as quand même des marchés qui sont suffisamment gros en ligne pour arriver à faire des choses déjà très belles. Quoi. Ouais. Mais oui, en effet, si tu veux aller le plus loin possible, de toute façon, il faut être le plus horizontal possible.
Et je comprends d'autant plus le choix de l'Europe, etc. Enfin, plutôt que
bien sûr.
Parce qu'en France, rapidement, en fait, le marché du commerce, il est bien, mais tu vas te taper, tu vas te taper le front rapidement. Quoi. J'ai l'impression que toutes les grosses marques D2C françaises, nos DNVB, tu vois, les Cabaya, les Cézanne, etc., ont fait ce choix de n'internationaliser vite parce qu'ils ont compris rapidement que l'online pur en France c'était capé.
En effet, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense aussi que sans entrer dans des débats que je maîtrise pas d'ailleurs géopolitique, mais tu vois, on a quand même un espace commun. Et, tu vois, t'as quand même des opportunités pour essayer d'opérer le consommateur européen, je dirais au moins Europe. De l'Ouest, tu vois, le consommateur méditerranéen, il est assez uniforme, quoi, tu vois, finalement. Enfin, alors, il y a la langue qui est un peu différente, mais je veux dire, je pense qu'on est quand même dans un contexte où tu peux, et je pense que ça va être d'autant plus important, et je pense d'ailleurs que les fonds le demandent de plus en plus, l'internationalisation, plein de fonds qui ont de plus en plus cette thèse-là. Bon, c'est souvent US, enfin quand tu es une boîte française, c'est souvent US. Mais je pense que c'est, ouais, je pense que c'est un facteur de plus en plus important. C'est pas le seul, mais je pense que c'est un facteur de plus en plus important.
Bon, écoute, on touche à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi.
C'était un plaisir. La question normalement classique à la fin que je pose, c'est est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance, mais on a beaucoup parlé d'Adormi. Je pense que c'est
Ouais,
celle-là que tu as
je
répondu.
pense que nous, en tout cas, ouais, Adormi, c'est pas forcément que la stratégie de croissance, enfin, dans le sens growth pur, c'est la stratégie d'exécution.
Ouais. Et que tu défi... Attends, mais c'est vrai que c'était un truc que je voulais te demander. Quand tu... on a parlé stratégie d'exécution au démarrage, tu l'as un peu défini comme en opposition au branding, tu vois. Dit que vous êtes plus des brutes de l'exécution que du branding.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, pourquoi est-ce que les deux s'opposent un peu selon toi?
En vrai, je sais pas si ça s'oppose.
Ouais.
Je sais pas si ça s'oppose nécessairement, mais je pense que, en fait, je pense particulièrement au début d'une aventure, d'une aventure entrepreneuriale, enfin, marque, etc. Je pense que, tu vois, la marque, c'est très vite quelque chose qui t'identifie et c'est très vite, ça peut être ça ton vrai vecteur principal, initial, de ta croissance, tu vois. Et ça peut te tirer assez vite et quand même, tu vois, et ça peut mettre très vite beaucoup de vent dans la voile et tirer assez fort et s'estomper, je pense. Et après, ça redevient important, etc. Alors que nous, ça n'a pas du tout été le cas. On s'est beaucoup plus focalisé tout de suite sur exécutons et essayons d'exécuter bien. Et on a commencé vraiment à bosser la marque dans un second temps. Donc, je pense que je le mets un peu en antagonie, juste un peu aussi du fait de nous, de la manière dont on l'a fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais voilà, je pense que. Et nous, ça a été un de nos premiers recrutements clés, tu vois. C'était une personne avec un vrai bagage sur la marque qui a pu. D'ailleurs, on a récemment, comme vous le voyez à l'écran, fait évoluer un peu la marque et, tu vois, gommer ce qu'il fallait gommer, épaissir ce qu'il fallait épaissir. Mais voilà, ça a été un des premiers investissements, même en termes d'équipe, enfin, non. Toute l'équipe est en investissement, bien sûr, mais en tout cas, tu vois, dans les recrutements clés qui identifient, tu vois, on s'est dit, bah, c'était pas forcément nos forces aussi, tu vois, tout simplement, à Julien et à moi. Donc voilà, je pense que nous, dans notre cas, ça se place pas mal. Et c'est vrai que, tu vois, souvent, et là, je parle plutôt de la levée d'avant, tu vois, on pouvait nous dire, ouais, bon, ok, votre marque, elle est sympa, mais bon, c'est un peu comme les autres. Et j'avoue que nous, on était là, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais nous, on ne trouve pas que forcément la valeur elle soit là. Enfin, c'est hyper important, on le fera, c'est promis. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider, vous pouvez. Mais voilà, ça n'avait pas été notre focus initial et c'est pas avec ça qu'on a eu notre croissance immédiate. Je pense qu'il y a des marques, tu vois, des marques que tout le monde connaît maintenant, justement, qui ont cette fibre brand très très forte. Je sais pas, tu vois, des respires, si je dois en citer une, je sais pas qui me saute à l'esprit. Où je pense que voilà, tout ce qu'ils ont réussi à construire sur ça, et bravo à eux, et franchement, c'est top. Nous, c'est pas du tout notre manière de faire. Je dis pas ça veut pas dire qu'ils exécutent pas bien, mais c'est un peu là où tu mets ton focus, quoi.
Merci beaucoup. On va
Bah, de
s'arrêter
rien.
là. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Merci beaucoup encore à notre invité du jour. Tu nous as régalé, c'était super intéressant. J'ai pris mon pied.
Cool.
Donc, je te souhaite une bonne soirée et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne soirée de même. Ciao à tous!